S'il y a une entreprise qui a pris du galon rapidement dans le monde de la technologie, c'est bien OpenAI, l'éditeur de ChatGPT. Et malgré son omniprésence dans notre vie numérique aujourd'hui, on connaît peu de choses de cette entreprise. Alors cette semaine, je vous propose de lever le voile un peu sur cette entreprise et même d'en connaître un peu plus sur ce qui a entouré le lancement de ChatGPT il y a plus d'un an et demi. Pour ce faire, on va aller rejoindre à l'instant, en Géorgie, aux États-Unis, Mathieu Roy, un gradué de l'Université Laval de Québec qui fait maintenant partie de l'équipe d'OpenAI. Il est là depuis plus de 2 ans. Alors, on le retrouve immédiatement. Bonjour, Mathieu Roy.
Bonjour.
Mathieu Roy, concrètement, qu'est-ce que vous faites?
Oui, mon rôle officiel, c'est responsable de programme technique. Mon travail consiste à comprendre les besoins des chercheurs puis des personnes qui s'occupent de développer le produit ChatGPT à OpenAI pour demander à une équipe de personnes qui vont entraîner ChatGPT à des nouveaux comportements. Donc, peut-être apprendre à utiliser des nouveaux outils ou si on veut changer sa personnalité. Tous ces comportements-là que ChatGPT apprend demandent des humains qui vont lui montrer comment le faire.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est changer son comportement. Est-ce que ChatGPT change souvent le comportement? Est-ce que c'est ajusté en temps réel? Comment ça se passe?
Il y a des décisions qui sont faites pour changer comme sa personnalité. Je pense qu'on était plutôt conservateurs vu qu'on était les premiers sur le marché vraiment à offrir un produit comme ça. Je pense que OpenAI se disait on est mieux d'être conservateur puis de mettre les limites plus conservatrices. Puis là, on se rend compte qu'en fait, il y a des choses que ChatGPT refuse trop souvent que ce serait correct de ChatGPT à faire. Fait que, ouais, ça, c'est des updates qu'on fait.
Comment ça se décide d'ouvrir un petit peu plus les barrières? Est-ce que c'est un comité? Comment ça se passe?
C'est pas un processus dans lequel je suis impliqué, donc je ne pourrais pas vraiment commenter par rapport à ce processus. Moi, c'est on me dit, OK, de façon globale, c'est le comportement qu'on veut, c'est, disons, que ChatGPT arrête de refuser un certain type de requête. Puis là, après ça, moi, je vais partager cette directive-là à une équipe de personnes qui vont créer des conversations comme s'il était ChatGPT. Où est-ce que ces requêtes-là sont plus refusées maintenant? Où est-ce qu'une réponse est donnée? Puis là, ces données-là sont utilisées pour entraîner ChatGPT après.
Sur un plan personnel, vous êtes un ingénieur de l'Université Laval.
Oui.
J'imagine que les ingénieurs rêvent à un moment donné d'inventer quelque chose. Vous, vous êtes au cœur d'une invention qui a changé sensiblement l'histoire de l'informatique de par sa facilité d'accès avec le commun des mortels. Comment on se sent quand on est au centre de cette activité-là?
Pour moi, c'est ce qui était le plus qui a eu le plus d'impact, c'est un niveau, la popularité que l'IA a eu après ChatGPT. Pour moi, c'était beaucoup des discours qui sont présents maintenant, qui sont fréquents, étaient très rares avant ChatGPT. Puis moi, ça fait comme 10 ans que je m'intéresse à ça. Donc, c'est vraiment étrange de voir des trucs qui étaient très niche pour moi, qui sont maintenant rendus mainstream. Mais sinon, aussi, pour moi, c'est une technologie très puissante qui, à moyen terme, peut avoir un impact énorme, potentiellement positif ou négatif. Puis, c'est comme de quoi que je prends très au sérieux. Puis, des fois, on développe des features qui sont cool, mais pour moi, je vois plus comme, je m'inquiète quand même des répercussions à long terme. Donc, je trouve ça surprenant, des fois, quand on développe des nouveaux features, mais je garde tout le temps en perspective. OK, ouais, c'est des cool features, mais comme, c'est sérieux ce qu'on développe là.
Je me trompe ou j'ai l'impression qu'en lisant vos propos puis en écoutant les entrevues que vous avez données ici et là, je sens que l'éthique par rapport aux technologies que vous développez, l'éthique est importante pour vous.
Ouais, je dirais qu'il y a définitivement une partie éthique, mais je pense qu'il y a une grosse partie aussi, c'est de l'ingénierie par rapport à la sûreté spécifiquement de l'IA. Comme une fois que l'IA devient plus puissante que nous, comment est-ce qu'on garde le contrôle? Comment est-ce qu'on peut, de façon robuste, savoir que ces motivations sont alignées avec les motivations de l'humanité? Après ça, il y a le problème éthique de, OK, qu'est-ce que sont ces motivations-là? Mais aussi, je pense que c'est un gros problème d'ingénierie de savoir comment encoder quelconque motivation.
Mais vous avez le même problème que le concepteur du marteau à l'époque, c'est-à-dire que le marteau peut être utilisé pour bâtir, mais aussi pour détruire.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs domaines où est-ce que la sûreté puis la capacité sont très proches, très interreliées. Comme si tu construis un pont, ben la capacité et la sûreté de ton pont va quand même aller main en main. Il y a d'autres domaines peut-être où est-ce que la maîtrise de l'énergie nucléaire, par exemple, où est-ce que c'est un peu différent. Il y a une structure sociétale qui doit être mise en place. Puis je pense que pour l'IA, il y a une cause de risque qui est différente de toutes les autres technologies qu'on a développées, où est-ce que l'IA elle-même peut devenir autonome puis être posée un risque par elle-même, séparée de son utilisation par des humains. Ouais. Donc ça, je pense que c'est une nouvelle cause de risque parce qu'on n'a pas vraiment d'analogie très bien développée. Là. Peut-être la meilleure analogie, ce serait dire une nouvelle espèce comme l'Homo sapiens qui arrive puis qui fait que les autres espèces comme le Homo néandertal devient extinct. Je pense que c'est une analogie qui fait plus de sens que de faire une analogie par rapport à d'autres technologies.
C'est intéressant parce que je vous écoute, puis vous revenez souvent avec justement le fait que ben, je sens que vous avez des craintes, vous avez une peur par rapport à l'avenir de l'humanité, sachant que on pourrait perdre le contrôle avec des créatures qui sont aussi puissantes que ça. Mais de l'autre côté, vous travaillez à développer ça. Je pense aussi à votre patron, Sam Altman, qui, des fois, nous met en garde contre l'intelligence artificielle. Mais de l'autre côté, vous travaillez aussi à faire ça. Donc, comment nous, simples utilisateurs, on peut arriver à être en sécurité ou à être confiant d'utiliser les outils que vous développez? Si vous, vous craignez un peu ce que vous avez entre les mains?
Je ne crains pas comme les outils qu'on a présentement, qu'on offre. Je pense que les utilisateurs sont bien renseignés sur les limites de ChatGPT ou des compétiteurs de ChatGPT.
Oui, des compétiteurs.
Ouais. Ouais. À plus long terme, c'est quand même difficile d'avoir des points d'intervention pour comme la plupart des personnes par rapport à comment développer l'IA de façon sûre. Mais je pense politiquement de supporter des programmes où est-ce que le gouvernement aurait un oversight par rapport à ce qui se passe, puis des ententes internationales, puis des capacités de ralentir. Comme le gouvernement, est-ce que le gouvernement présentement a la capacité d'arrêter le développement de l'IA s'il jugerait que ça devenait dangereux ou qu'il y avait des problèmes techniques par rapport à encore des motivations dans l'IA qui n'étaient pas encore résolues? Je ne sais pas si on a cette capacité-là présentement, puis c'est peut-être un point d'intervention possible. Juste d'être au courant, d'en parler.
Ah, vous écoutez, j'ai l'impression que vous appréciez tout le travail de communication que Joshua Bengio fait pour poser les questions et forcer les gouvernements, autant les Nations Unies que les différents gouvernements là, des États, à prendre position puis à s'assurer qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau de la réglementation.
Oui, par rapport à ce que j'ai écouté de Joshua Bengio dans la dernière année, j'étais surprenamment surpris. Positivement surpris de son discours, puis je pense que c'est très sain et bonne orientation par rapport à développer cette technologie.
Je vous ramène à votre travail chez OpenAI. Ça fait 2 ans que vous êtes chez OpenAI. Comment vous avez vécu de l'intérieur la révolution que vous avez créée? Comment, à l'intérieur, comment ça se vit?
Au moment qu'on a déployé ChatGPT, à l'intérieur de la compagnie, on était quand même assez isolés. Notre travail jour au jour était le même. Comme. Mais ouais, de voir, c'est comme un des produits qui a gagné en popularité les plus rapidement, qui a brisé des records. Là. Ouais, c'était surprenant de voir ça, puis de voir l'impact que ça avait.
Mais de l'intérieur, vous le dites, ça n'a pas changé votre quotidien, vos tâches étaient toujours les mêmes pour s'assurer que ça fonctionne bien. Mais est-ce qu'il y avait une fierté? Est-ce qu'il y avait une nervosité? Comment ça se passait de ce côté-là?
Oui, c'est vraiment intéressant parce que, comme de notre point de vue interne, il n'y a pas eu de changement immédiat grand comme par rapport à la capacité de l'IA. Comme ChatGPT, à la base, était basé sur GPT-3, puis GPT-3 existait déjà depuis comme plusieurs mois au moment qu'on a déployé ChatGPT, sauf qu'il n'était pas disponible dans une interface d'assistant. C'était juste comme un prédicteur de texte. Puis cet élément de UI qui facilitait l'interaction avec l'IA a fait que le produit a explosé en popularité. Moi, j'avais déjà montré le produit avant ChatGPT à des personnes que je connaissais, mais juste le fait que c'était pas un assistant, que c'était une discussion interactive, que c'était juste un prédicteur de texte, faisait que c'était beaucoup moins facile de comprendre.
Mais tout a passé par le UX.
Ce qui manquait à la marge entre GPT-3 et ChatGPT, c'était le UX. Ouais.
Et les gens qui ont travaillé là-dessus, parce que j'imagine que de temps en temps, vous les croisiez, eux, est-ce qu'ils étaient conscients que ça allait être aussi important leur apport dans le travail?
Autant que je sache, il n'y a personne vraiment qui s'attendait à ça. En rétrospective, c'est surprenant, mais comme ChatGPT était publié comme étant un preview de la recherche qui se passait internement. Donc, ça devient le produit qui a grossi le plus rapidement. Donc, ouais, c'est.
Puis comment ça s'est passé les jours qui ont précédé le lancement? Est-ce qu'il y a eu des... Ben là, vous étiez toujours en test parce que vous étiez toujours en train d'améliorer GPT, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier, genre la veille ou le jour même du lancement?
Mon équipe n'était même pas au courant que ça allait être déployé au moment que ça allait être. Ouais.
Ça a été quoi la réaction quand ils ont vu que leur travail est accessible?
C'était bizarre à quel point notre travail au quotidien était comme aucunement changé, puis de voir le lien, OK, de faire la connexion, OK, ouais, ce que je vois, c'est relié directement au travail que je fais.
Vous, parce que c'est ça, vous le disiez, ça fait longtemps que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, vous, où vous trouvez votre plaisir, où vous trouvez votre défi intellectuel là-dedans?
Ultimement, comme j'aime la job spécifique que je fais, puis les tâches spécifiques que je fais, mais ultimement, ce qui me motive beaucoup, c'est la mission de l'organisation. Puis, je serais épanoui dans divers rôles, autres que le rôle spécifique que je fais. Ce qui motive vraiment, c'est la mission de l'organisation, plus que quelconque tâche spécifique que je fais.
Donc, vous, c'est l'idée de faire avancer l'intelligence artificielle.
Ouais, de façon sûre et pour le bénéfice de l'humanité.
Comment vous, vous vous assurez de garder l'intelligence artificielle, là, aujourd'hui, c'est chez OpenAI, mais peut-être qu'un jour, ça sera ailleurs. Comment vous vous assurez, vous, dans votre démarche de travail, de garder ça le plus sûr possible?
Comme il y a plusieurs projets sur lesquels j'aimerais m'impliquer, c'est difficile pour. C'est des organisations qui demandent des milliers de personnes de collaboration énorme pour atteindre ces objectifs-là. Donc, moi, présentement, je travaille avec l'équipe de Super Alignment à OpenAI qui s'intéresse à résoudre ce problème-là de motivation avec des intelligences artificielles qui surpassent l'être humain. Mais sinon aussi, je pense que la structure corporative, puis la mission, puis les projets sur lesquels OpenAI travaille sont dans les plus probables de mener l'humanité dans une bonne direction. Donc, juste de supporter OpenAI en général, que ce soit à développer un feature pour ChatGPT, puis qu'il y a quand même plus de revenus à OpenAI, même si c'est pas directement relié au Super Alignment, c'est de quoi que je pense qu'il aide la mission au final.
Est-ce que vous êtes surpris, parce que vous, je le disais tout à l'heure, ça fait longtemps que vous êtes là-dedans, mais est-ce que vous êtes surpris de voir l'engouement autour de l'intelligence artificielle?
Ouais, je pense, je suis surpris à quel point ça a devenu mainstream très rapidement, que ça faisait comme au-dessus de 10 ans que je voyais des organisations qui essayaient de comme sonner l'alarme ou d'apporter attention au gouvernement, apporter attention à divers organisations. Puis de voir comme à quel point ça transitionnait rapidement, puis à quel point maintenant c'est déjà intégré, puis c'est déjà comme pris, c'est déjà accepté, puis intégré dans la société, puis discuté énormément. Ouais, je garde ça définitivement en perspective.
Est-ce que ça vous inspire, vous, d'être là, d'être une des personnes qui travaille à révolutionner, à quelque part, les outils qu'on utilise dans la vie?
Je pense qu'il y a une bonne chance que la transition vers l'IA va soit bénéficier l'entièreté de l'humanité ou va mener à l'extinction des humains. Donc, je pense qu'on est comme dans le même bateau dans une grande mesure. Puis,
Et qu'est-ce qui va faire la différence qu'on aille dans un sens ou dans l'autre?
ouais, il y a plusieurs problèmes à résoudre comme. Il y a le problème technique que je faisais référence de motivation, mais il y a aussi collaboration internationale pour éviter des courses à l'armement ou éviter le déploiement de l'IA de façon prémature. Ouais, puis être au centre de ces développements-là, ben, je pense que ça donne une occasion de contribuer.
En terminant, quel conseil, quelle recommandation vous donneriez à quelqu'un qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et qui voudrait œuvrer dans ce domaine-là?
J'encouragerais à sentir un certain comme devoir de se renseigner sur l'impact à long terme que ça peut avoir sur l'humanité. Ouais, j'encouragerais les personnes qui s'intéressent à joindre le domaine de pas juste joindre la machine puis accélérer l'IA sans être conscient du contexte dans lequel ça se passe.
Donc, d'être responsable dans sa démarche.
Ouais.
Mathieu Roy, vous êtes chef de produit chez OpenAI. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne suite.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.